en tête qui disait, c'est une chanson d'un monsieur qui s'appelle Dan Lutten, et qui dit « Sonde-moi Seigneur et connais mon cœur ». C'est basé sur un verset de la Bible. « Regarde-moi et connais mes pensées ». Enfin, « Sonde-moi Seigneur ». Ouais, c'est ça les chansons ? Là, non, il faut m'aider, ouais. « Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur toutes tes voies pour l'éternité. » Et j'ai la conviction au fond de mon cœur. Et une certitude, c'est que Dieu te connaît, Dieu connaît ta vie, et j'ai la conviction qu'il va te parler ce soir, ok ? Sans plus attendre, on va parler donc de Noël. Noël, quand on parle de Noël, on parle d'être bien zappé, on parle de cadeaux, fêtes, bien manger, on parle d'arbres de Noël, on parle du vœu monsieur bizarre avec la barbe, un peu plus grande que la mienne, un peu blanche, en rouge. On parle beaucoup de choses, mais pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour moi, Noël est surtout synonyme de... Vous savez de quoi c'est synonyme, Noël ? De ? L'anniversaire, exactement, de Jésus, la naissance donc, de Jésus. Et avec votre aide ce soir, j'aimerais rapidement, donc j'ai besoin que vous soyez dynamique, parce que je regarde l'heure, il ne faut pas que je m'emporte, mais j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que vous soyez dynamique, vous allez m'aider à remettre un petit peu le contexte de Noël. Donc, Noël, la naissance de Jésus commence comment ? Elle commence dans une étable ? Ok, avant l'étable, parce qu'elle n'a pas commencé à l'étable. Ok, un ange qui est apparu. Il est apparu à qui cet ange ? Ok, à Marie qui était mariée avec ? Ok, donc... Fiancé, pardon. Ok, excusez-moi. Ou la blasphème. Non, je peux... Donc, Marie était fiancée avec Joseph, on va faire attention, et l'ange apparaît et lui dit quoi ? Tu donneras naissance à un enfant, cet enfant sera qui ? Emmanuel, le Messie, Jésus, très bien. Ok. Ils étaient dans quelle... Ils viennent de quelle ville ? Non. Ils viennent d'où ? Ok, ils viennent de Nazareth et ils vont à... Ok, Marie est enceinte, ils vont à Bethléem. Ils vont à Bethléem faire quoi ? Un recensement. Qui sait ce que c'est un recensement ? Qu'est-ce que c'est un recensement ? Wow, vous avez tous parlé en même temps. Voilà, donc on va compter, on va mettre par écrit le nombre d'habitants, on va faire une espèce de... manuel démographique, on va dire ça. On va mettre le nom des gens, on va les écrire. Très bien. On arrive, ils sont là en train d'aller de Nazareth à Bethléem. Ils sont les deux, Marie enceinte. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Bethléem pour le recensement ? Ouais, il n'y a plus de place. Avant ça, j'ai vu tout à l'heure Mélodie et Nico. Bon, je ne les vois plus, mais je pense que c'est arrivé la même chose qui est arrivée à Mélodie il y a quelques semaines en arrière, entre le vendredi et le samedi. Elle a eu des contractions. Elle a perdu les œufs et maintenant, ils ont les œufs. Non, pardon, c'est la fin de la semaine, on est fatigué. Vous ne m'en voudrez pas pour mon vocabulaire. Non. L'enfant, Jésus est né, il est né dans une bergerie. Et qui ont été les premiers à venir les voir ? Les rois mages ? Non, les bergers. Les bergers sont venus avec les anges. Les rois mages sont arrivés combien de temps après ? 3 semaines ? Ok. Matthieu 2, 11 dit, quand les rois mages dit, ils entrèrent dans la maison et ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ok ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je vais aller très vite pour mettre le contexte. Les rois mages sont arrivés quelques temps après. Contrairement à ce qu'on peut voir souvent quand on marche dans la rue, la petite étape jolie avec les trois mages, avec les différents cadeaux, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ça prenait du temps à voyager à cette époque. On n'avait pas les trains, on n'avait pas les bateaux, on avait très peu de moyens, on va dire, pour pouvoir se déplacer. ils sont arrivés, certains théologiens disent qu'à peu près quand Jésus avait environ 2 ans. Il y en a d'autres qui disent un peu moins, mais de toute façon, on sait qu'ils ne sont pas arrivés quand il était un bébé dans la bergerie. OK? Après, Jésus continue sa vie et on a quelques détails, mais très peu. On a des détails de son enfance, on n'a pas beaucoup de détails après ses 18 ans. Mais si on remet ça dans le contexte de la Bible, dans le contexte de la vie de n'importe quel jeune enfant hébreu de l'époque, on peut facilement dire que Jésus, de 0 à 13 ans, il a appris la Torah, il a fait sa bar mitzvah. De 13 à 18 ans, il a rendu à ses parents en les honorant sur tout ce qu'ils ont donné quand ils étaient enfants. De 18 à 30 ans, il a vécu sa vie, il a fait son métier. Vous savez tout ce que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Et de 30 ans, il va voir Jean-Baptiste, il se fait baptiser, la colombe descend, Dieu parle, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, on voit le ministère de Jésus qui commence, différentes choses qui se passent. Il rassemble les disciples, il continue. Tout ça, vous connaissez? Un petit rappel? Oui? Pour qui c'est peut-être nouveau? Non? Ça va, on connaît, donc on va aller vite. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Les Romains viennent arrêter Jésus. Jésus, qui était juste la personne la plus parfaite qui vont sur terre, qui était innocent, comparé à ce que beaucoup d'autres pourraient penser. Tous les autres, de ce que je vois, la Bible est claire dans Genèse, elle dit qu'une fois qu'Adam, qui était le premier à manger le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal, le péché est rentré dans le monde. On a tous la connaissance du bien et du mal, on est tous pécheurs, mais le seul homme qui est venu, qui a vécu une vie sans péché, qui était concrètement innocent, concrètement, innocent, s'est donné. Il s'est donné parce qu'il avait la puissance de faire plein d'autres choses. Il aurait pu s'échapper, Dieu aurait pu envoyer une armée d'anges. Enfin, on pourrait spéculer sur énormément de choses. Mais il a choisi, parce que Jésus, malgré qu'il ait fait plein de choses, malgré qu'il ait guéri des malades, malgré qu'il ait enseigné ses disciples, il est venu avec un but. Et ce but était de mourir à la croix, était devenu d'être un sacrifice pour que toi et moi, pour que nous, aujourd'hui, puissions avoir accès à la vie éternelle, pour que nous, au travers de lui, puissions avoir une relation. Jésus a fait tout ça avec un but en tête. C'était quoi? C'était d'être ami, d'avoir une relation. C'était de pouvoir. Souvent, quand je dis ça, les gens me disent, oui, non, mais attends, Igor, non, mais d'abord, ok, il est venu pour avoir une relation avec nous, mais il est venu mourir pour que je puisse être sauvé, pour que je puisse avoir accès au Père. Et souvent, quand on me dit ça, je dis, ok, c'est très bien. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est par moi. Si ce n'est pas par notre relation avec Dieu, si ce n'est pas par le fait que nous l'acceptons dans notre vie, si ce n'est pas par le fait qu'on développe cette relation, on ne peut pas avoir accès au Père. Et ce message de la croix, pour moi, je l'ai entendu pour la première fois il y a 11 ans en arrière. J'étais en train de me rappeler encore aujourd'hui, c'était en 2007, c'était en avril. Et ce message, il est venu, mais comme marqué un point clé dans ma vie. Ok, on voit tout ce que c'est une ligne temporelle, n'est-ce pas? Moi, dans ma vie, il y a un point clé. C'est avril 2007. Je suis sûr que vous avez les vôtres aussi. Il y en a d'autres, mais celui-ci était vraiment un. Avant ça, de 93, du 7 janvier 93 jusqu'à avril 2017, j'ai eu une vie et après ça, j'en ai une autre. Il y a eu la croix qui est venue mettre un point marquant, un point clé, un moment où il a divisé mon histoire. Ça n'a pas été un truc magique, ça a été un choix, ça a été une décision. Un moment, quand j'étais pas très loin d'ici, au canton de Vaud, dans un endroit qui s'appelle Saint-Georges, on m'avait envoyé là. Ma mère m'avait envoyé là parce qu'elle m'a dit, écoute Igor, j'en peux plus, c'est soit ça, soit le Brésil. Ah, tu vas vivre avec ta grand-mère parce que toi, là, j'en peux plus. Et moi, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je dépasse un peu les bornes, ok, d'accord, mais Non, il ne faut pas que j'aille au Brésil. Je viens d'avoir la nouvelle Xbox. Mince. Et j'avais mon PC, mon Natel en plus. En plus, à l'époque, c'était les Natel, vous savez, qu'on ouvrait comme ça. Les Motorola et qui avaient encore les sonneries polyphoniques. Il y en a qui savent ce que c'est, ça ? Non, c'est des trucs où il n'y a pas de chansons. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on ne peut pas écouter les paroles. Ok, là, je suis en train de vendre mon âge, non. Ce que je veux dire, voilà, c'est que j'avais un certain confort et moi, je ne voulais pas laisser tomber ce confort. Donc, j'ai dit, ok, vas-y, je vais aller dans ce compte chrétien, il n'y a pas de souci, envoie-moi. Ma mère, le truc, le pire dans tout ça, c'est que ma mère n'était même pas chrétienne. Elle a entendu une amie qui avait envoyé son fils dans le camp et que Dieu avait touché sa vie et que du coup, le gars, il était revenu à la maison super sage et ma mère était là, c'est ça qu'il faut pour moi. C'est ça qu'il faut pour mon fils, je vais l'envoyer là-dedans. Et elle m'a envoyé, moi j'arrivais, je faisais vraiment le dur, j'étais là, ok. Et j'ai fait le dur, un jour, deux jours, trois jours, quatrième jour un peu moins, et le cinquième jour, un pasteur qui maintenant au Canada, qui s'appelle Mathieu Bléry, a fait cet appel, j'ai pas hésité deux fois, j'ai dit ok, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, j'en sais rien, je te connais pas, ils disent que t'es vivant, mais moi, ok. Mais si c'est vrai, moi je vais essayer. Et je me suis avancé, j'ai donné ma vie à Dieu à ce moment-là, et c'est pour ça que je vous dis que c'est comme un changement. Avant ma vie, c'était conflit avec ma mère, parce que mon père m'avait carrément abandonné et parti. C'était manque d'identité, c'était accro à la pornographie, c'était des problèmes avec le genre féminin, c'était des bagarres à l'école dans lesquelles j'ai failli me faire virer, c'était une scolarité, mais médiocre, c'est un euphémisme, tellement elle était nulle. Hein. C'était de pire en pire, c'était une descente aux enfers, une décadence. Et le jour où j'ai pris cette décision, je ne l'ai pas vue tout de suite. Ça a pris du temps. Maintenant, ça a pris 11 ans. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je me rends compte comment Dieu a changé ma trajectoire en cours de route à travers cette division, à travers ce moment où j'ai pris le choix de lui donner ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là ? Quand tu choisis de donner ta vie à Dieu, ce n'est pas simplement une émotion. Ce n'est pas simplement parce que tu le sens, c'est un choix que tu prends. Et quand tu prends ce choix, et que tu persistes dans ce choix, et que tu avances, moi je peux te garantir à 300% que tu pourras regarder en arrière, fier, et en train de dire, mais Seigneur, d'où est-ce que tu es venu m'arracher ? Je suis sûr que si ce soir, après le culte, tu prends le temps de discuter avec les gens et juste dire, ouais, comment t'as donné ta vie à Dieu ? Tu verras une multitude d'histoires différentes. Il y en a qui sont sortis, mais des moments où leur vie allait tout bien, et d'un coup, tout a basculé, et vice-versa. Plutôt, on va dire ça. Ça veut dire qu'il était mauvais, et d'un coup, ça allait bien, mais même quand tu essayes par tes propres forces. Moi, ce moment où j'ai donné ma vie à Dieu, c'était tout de suite après que j'ai essayé de me suicider. Parce que juste avant de donner ma vie à Dieu dans ce camp-là, j'avais déjà entendu parler, j'étais déjà venu une fois ici au groupe de jeunes, mais je n'avais pas trop croché, personne ne m'avait parlé, donc je suis sorti comme je suis revenu, et concrètement, j'ai manqué à personne. C'était ça la réalité cette fois-là. Et j'étais là, ok, c'est bien Dieu, j'ai entendu que tu existais ce soir, avant même de prendre cette décision, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, ouais, c'est cool, mais moi, je n'ai pas besoin de toi, moi, je peux gérer ma vie tout seul. Ma vie n'est pas si mal que ça, j'ai des bons amis, je suis cool à l'école, je suis connu. Non, mais bon. Il y avait plein de choses qui allaient, selon moi. Et concrètement, le jour où j'ai commencé à être assez hautain, que je croyais que ma vie allait mieux, pour regarder Dieu et dire « j'ai pas besoin de toi », c'est le jour où j'ai vécu la plus grande tristesse dans ma vie et que justement j'ai essayé de me suicider. Parce que, heureusement, l'hôpital m'a sauvé, a fait un lavage d'estomac avec tous les médicaments et l'alcool que j'avais bu. J'essaie de vous expliquer que, concrètement, à ce moment-là, le moment où je croyais que j'avais repris ma vie en main, c'est un moment où je me suis rendu compte que sans Dieu, je ne pouvais rien faire. Et ce soir, on va lire tout à l'heure un verset qui est dans Ecclésiaste 7-8, pas besoin de l'afficher maintenant, mais qui dit que vaut mieux la fin que le commencement de toute chose. Aujourd'hui, peut-être, tu as un moment dans ta vie dans lequel tout a l'air d'aller bien ou tout a l'air d'aller mal. Moi, j'aimerais te dire que le moment que tu vis dans ta vie ne définit pas ton futur. Aujourd'hui, Dieu te met face à un choix. Aujourd'hui, Dieu te dit, je t'aime, je crois en toi. On t'a peut-être dit que tu n'arriverais à rien dans la vie, mais moi, je t'ai conçu, je te connaissais dans le ventre de ta mère avant même que tu naisses, je sais le potentiel que tu as. Je sais pourquoi je t'ai créé. Je sais qui tu es, même si toi-même tu ne le sais pas. Et toutes ces différentes choses, Dieu, ce soir, veut te les dire, pas seulement au travers de moi, mais directement à toi. Et pour ça, c'est très simple, c'est un choix. C'est un choix qui marque le début de ton histoire avec Dieu. C'est un choix dans lequel tu invites la puissance de la résurrection de Jésus à venir dans les domaines de ta vie et transformer. Aujourd'hui, je peux clairement vous dire quel point ça vaut la peine. Même si votre vie, elle est bien, mais elle peut aller que mieux. Et quand je dis ça, je ne dis pas « Cool, c'est un long fleuve tranquille, maintenant ma vie va être trop top, j'aurai plus de problèmes. » Sincèrement, le nombre de problèmes que j'ai vécu ces 5-6 dernières années ou d'autres choses, ce n'est pas ça. Mais il y a une différence entre vivre les problèmes avec Dieu, avec quelqu'un qui est là, avec quelqu'un que qui a cette puisse qui va te emmener à cette puissance de la résurrection, qui va t'emmener à prendre tes responsabilités, qui va te dire « Non, mais Igor, regarde les bonnes choses, regarde de ce côté de la vie, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Il y a une différence entre vivre ta vie, qui est peut-être très bien, ou peut-être l'est pas, tout seul, livré à toi-même, ou simplement tendre ta main et prendre à celui qui veut te la donner, à ton père, à ton ami, ton créateur qui est là. Je vous propose très rapidement qu'on puisse juste fermer les yeux. 2 secondes. En préparant ce message, j'avais deux convictions. J'avais la conviction que ce soir, il y a des gens qui avaient besoin d'entendre que Dieu les aime, que Dieu les a choisis, et que ce soir, tu as le choix de commencer une nouvelle vie. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu lèves ta main. Et j'aimerais prier pour toi. La parole dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Et je crois ce soir qu'il y a des gens ici, enfin je sais qu'il y a des gens ici, qui soit n'ont jamais fait ce pas, soit l'ont fait, mais droit derrière, c'est comme si le choix n'avait pas été fait. Tu t'es peut-être laissé guider par l'émotion, tu t'es peut-être laissé guider par un moment où vraiment quelque chose est venu, mais c'est comme si tu n'étais pas pleinement conscient de ce choix. Et si c'est le cas, j'aimerais juste rapidement, pour qu'on puisse poursuivre, que tu lèves ta main et que je puisse prier pour toi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour les décisions qui se prennent ce soir, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'es ni homme ni fils de l'homme pour mentir, mais tu es fidèle pour accomplir ta parole. Merci parce que tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui transforme. Et peut-être maintenant, vraiment dans ton cœur, que tu puisses simplement dire, « Seigneur, je te donne ma vie. » Je choisis de te suivre et je t'accepte dans mon cœur. Amen. Amen. On va continuer parce que non seulement je crois qu'il y avait des gens qui avaient besoin de, on va dire, qui avaient besoin de refaire ce choix ou de faire ce choix, tout simplement, mais je crois que plus que ça, Dieu veut nous donner des outils. Je crois que le cœur de Dieu ce soir est de nous donner des outils pour qu'on puisse vivre notre vie chrétienne. Parce que comme je dis, il y a un moment dans la vie, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu commences à avoir une relation, ce n'est pas la fin, c'est le début. Et je crois de plus profond de mon cœur, comme ce verset dit, on peut l'afficher, Ecclésiaste 7:8, qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Moi, je crois du fond de mon cœur qu'aujourd'hui, ou plutôt il y a 11 ans en arrière, j'ai commencé bien la course, j'avais conviction de ce que je faisais, mais que ça ne sert à rien de bien commencer si tu ne finis pas la course, qui est bien. On peut commencer un marathon, c'est quoi, c'est 42,6 km, c'est ça? Hein? Merci, ça on connaît les sportifs. Merci Alex. Ok, 42,225. Donc, à partir, on peut très bien commencer un marathon. Par contre, si on arrête au bout de 10 km, au final, on n'arrive pas au bout du marathon. On peut très bien avoir couru, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui est là en train de courir le marathon et qui après, au bout de 10 km, s'arrête et qui d'un coup, il y a quelqu'un qui l'attendait à la ligne d'arrivée qui arrive, waouh, j'ai jamais vu quelqu'un courir 10 km comme toi, c'est top, félicitations pour les 10. Oui, on peut lui dire pour lui consoler éventuellement après. Souvent, si c'est petit ami, si c'est vos parents, ils vont souvent vous dire, oh, mais c'était très bien, l'année prochaine, tu feras 12. Toi, tu seras là, ouais, mais c'est 42. Non. On peut très bien commencer un marathon, mais ce qui va déterminer la réussite, c'est comment on va le finir. Et c'est quelque chose que je me dis tous les jours, ok, c'est bien d'avoir bien commencé, mais concrètement, comment est-ce qu'on va finir la course? Et dans ce passage d'Ecclésiaste, je vois comme deux principes que Dieu nous donne pour cette marche. Il dit que il met en opposition deux choses. Il met en opposition la fin et le commencement. Et il met en opposition le fait d'avoir un esprit patient et d'un esprit hautain. Ok ? Pour moi, ces deux choses, elles laissent clair deux principes, deux dimensions, qui sont la perspective et le cheminement. Quand on parle de fin et commencement, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Pour moi, ça, c'est un but, c'est une perspective. C'est, en d'autres mots, une vision que Dieu te donne. Et la deuxième chose, c'est au niveau du cheminement. Quand on parle de cheminement, on parle de comment y aller du point A au point B. On parle de comment je vais dire ça, de ne pas avoir, de comment marcher dans ce chemin. Dans ce chemin-là, qu'on parle d'esprit hautain et d'esprit, je regarde juste les notes, d'esprit hautain et merci, d'esprit hautain et d'esprit de patience. Pour moi, c'est très clair par rapport à finalement comment est-ce que Dieu aimerait qu'on agisse, parce que c'est bien de commencer quelque part quand on passe par la nouvelle naissance, qu'on accepte Dieu dans notre vie. On commence quelque part, on chemine. Et ce cheminement, ben, on veut atteindre un but que Dieu veut nous donner, mais on doit avoir une attitude de patience. Combien de fois dans ma vie, au bout de 2 ans de chrétien, j'étais là, mais Seigneur, tu m'as donné tellement de promesses, pourquoi je ne les vois pas dans ma vie ? Seigneur, tu m'as dit, tu as déclaré des belles choses dans ma vie, que tu allais faire ça et ça de moi, tu m'as dit que j'étais ça. Ou alors, tu m'as mis ces rêves à cœur, tu m'as mis le rêve de faire ça. Et concrètement, combien de fois ces choses viennent et au bout de 2-3 ans, on est déjà là, ouais, Seigneur, c'est déjà passé 3 ans. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais 20 ans, au bout de 3 ans, donc 15, j'avais 18 ans, donc à 18 ans, je voulais déjà être, je ne sais pas, président de la Suisse, non ? Ouais, un des 7 conseillers, bon, on peut dire président. Président de la Suisse ou un des 7 conseillers fédéraux, j'en sais rien. Et au final, tu es là et tu n'utilises pas cet esprit de patience. Et moi, concrètement, si ce n'est pas un esprit de patience, la parole me dit que c'est un esprit hautain. « quand tu laisses cet esprit hautain dans lequel tu veux toi poursuivre les rêves que tu as pour toi et que tu veux qu'ils s'accomplissent alors que tu veux qu'ils s'accomplissent et que tu commences à avoir un esprit de patience et dire, ok, c'est quoi la patience? C'est je vais attendre sur Dieu. Dieu est fidèle? Oui, il est. Dieu m'a promis qu'il allait le faire? Oui, il va le faire. Alors je veux simplement patienter, je vais être dans la paix, je vais avoir la foi et je vais vivre ce cheminement, je vais vivre ce processus. Récemment cette année, j'ai pu accomplir, j'espère qu'il arrivera jusqu'au bout, mais commencer un de mes rêves que j'avais depuis plus de 10 ans en arrière, qui était de pouvoir étudier les relations internationales. Et maintenant, à 25 ans, j'ai pu rentrer à la fac et je ne vous dis pas comment c'est chaud. Heureusement, on a des frères qui sont très bons en maths, Michael, tu te sentiras concerné, qui nous enseignent à faire des fonctions que les gars qui sont au collège de 17, 16 ans font, mais que toi, tu ne sais pas. Et quand le professeur est là, il te parle de fonctions, et toi, tu es là, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Dieu sait pourquoi il te fait attendre. Dieu sait par quel chemin il te fait passer. Et quand tu passes par ce chemin-là et que tu arrêtes simplement de poursuivre ton temps, ta volonté, c'est à ce moment-là que je crois que Dieu libère son temps, libère son chemin dans la vie. C'est à ce moment-là que Dieu peut commencer à ouvrir avec cet esprit de patience. Quand tu as cet esprit de patience, tu commences à comprendre et faire confiance à Dieu. Tu sais que s'il a ouvert cette porte, c'est parce que c'était le moment dans lequel tu pouvais y entrer. Parce que, je ne sais pas si vous savez, qui croit que Dieu ouvre des portes? Ok. Qui croit que Dieu ferme des portes? Ok. La parole, elle dit que la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Ok. Et bien sûr, la porte que Dieu ferme, personne n'ouvre. Ok. Moi, j'ai la conviction que Dieu ouvre une porte, mais c'est à nous de la maintenir ouverte. Aujourd'hui, Dieu m'a ouvert une porte pour les études. Si je vais tous les jours, après les cours, mater Netflix, que je vais tous les jours, au lieu de réviser ou faire quoi que ce soit, Dieu a beau avoir ouvert la porte, moi je peux la fermer. Si Dieu te donne un travail et que tu es irrespectueux avec tes supérieurs, tu as un mauvais caractère et tu finis par t'embrouiller avec toutes les personnes qui sont avec toi dans ton lieu de travail, que tu arrives toujours en retard, tu peux même être quel trait technique et un bon professionnel, concrètement. Vous croyez que l'entreprise va vous garder? Vous croyez que l'entreprise va vous garder? Ok. Dieu ouvre les portes, c'est à nous de les maintenir ouvertes. Mais, quand tu as cet esprit de patience, quand tu sais que Dieu, donc si on prend ce raisonnement de perspective et cheminement, quand tu sais que Dieu a quelque chose pour toi, et que tu fais use de patience parce que tu sais que ce qu'il a prévu pour toi, personne ne va le prendre, qu'il entende te préparer pour arriver à cette porte ouverte, tu n'as plus peur, tu n'as plus besoin d'avoir cet esprit hautain, cet esprit de compétition, cet esprit de vouloir être le premier, je suis le meilleur. Tu commences à vivre un des principes spirituels que je trouve les plus merveilleux, qui est l'honneur. Tu commences à être une aide, tu commences à être un tremplin, tu commences à contribuer à la croissance des autres, parce que tu n'as pas peur qu'ils vont te piquer ta place. Tu n'as pas peur d'aider quelqu'un dans ce qu'il a de soucis, parce que demain, le chômage est dur et il va prendre ma place de travail parce qu'il est meilleur ou plus. Non, tu n'as pas peur d'aider ton prochain. Tu n'es plus animé par cet esprit hautain, mais tu es animé par un esprit de patience. Tu commences même à te réjouir de la réussite des autres. Qui croit cela? Vous êtes silencieux ce soir. Oui, je sais, c'est 2 ans que je n'ai pas prêché ici. Et la dernière église que j'avais prêchée, c'était une église africaine. Ils étaient « Amen !»« Hallelujah !» Toi, tu sais de quoi je parle, man. Non. Ouais, bon. Blague à part. Concrètement, aujourd'hui, en venant ici, j'étais dans la voiture, j'écoutais une émission et j'ai entendu Bill Gates qui disait: nous nous focalisons tellement sur ce qui n'est pas fait que nous oublions de regarder ce qui a été accompli et d'observer les leçons des choses qui marchent. Ok? Bill Gates qui a dit ça. Bill Gates a dit ça, moi j'ai entendu autre chose. Bill Gates a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, on va dire dans des termes qui nous intéressent ce soir, c'est pour ça que je me permets de le reformuler. Nous voulons tellement vivre et avancer et vivre l'appel de Dieu pour nos vies et les promesses qu'il nous a faites, que nous oublions que l'appel n'est pas un but mais un chemin. Il m'a même dit, Igor, parfois tu es tellement focalisé, c'est bien d'être intentionnel dans la vie, c'est bien parce que tu vas et go get it, tu vas et tu prends ce que tu veux, tu vas atteindre un but, tu te donnes. Mais si tu oublies de vivre l'expérience, si tu oublies de vivre le voyage, et surtout tu oublies de parler, de passer du temps avec celui qui t'accompagne, à quoi il sert? À quoi ça sert d'atteindre le but? Ce qui définit le but, c'est le chemin. Si maintenant je vais d'ici jusqu'à la maison et que je pars dans l'autre direction, moi je vais jamais y arriver. Hein. Je vais traverser l'Europe, ça va être un exploit, super. Il a réussi à traverser l'Europe. Non, quand même pas. Mais ça n'a pas de sens. C'est bien d'être intentionnel. Dieu veut qu'on ait une perspective, mais il veut qu'on profite du chemin et il veut qu'on profite de ce qu'il nous a donné. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Une relation avec lui, l'opportunité d'avoir accès au Père. Ok? Je vais clôturer très bientôt. Pour ça, j'aimerais juste dire qu'en plus de ces deux clés que Dieu veut nous donner ce soir, Dieu veut aussi vous donner des cordes. Ok. Bon, vous allez me comprendre. Ok. Donc, Dieu veut te donner des outils ce soir. On marche avec lui, il ne va pas nous laisser aller tout seul. C'est le premier truc que j'aurais voulu qu'on me dise une fois que j'ai donné ma vie à Dieu. C'est « Ok, Igor, tu as donné ta vie à Dieu, c'est super, tu as commencé un chemin, tu as pris une décision. Maintenant, pour t'y tenir, parce que c'est bien de commencer, mais c'est mieux de finir, il faut que tu puisses garder le but, il faut que tu puisses vivre le voyage et il faut que tu sois patient et que tu ne sois pas animé d'un esprit hautain. Mais, Igor, je vais te donner certaines choses, j'aimerais te donner des cordes. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que Dieu m'a dit. Cordes. Qu'est-ce que c'est une corde? Moi, je ne vais pas chercher la définition, j'attends quelqu'un assez intelligent me le dise. Hein? Cordes. Est-ce que quelqu'un connaît une expression avec cordes? Il pleut des cordes, ok? Quoi d'autre? Avoir plusieurs cordes dans son arc. Ok, la corde à trois plis. Voilà, elle n'est pas facile à briser, elle ne se brise pas. Ok, moi j'ai vu avoir la corde au cou. D'accord? C'est quelqu'un qui m'a dit ça avant mon mariage. Et du coup, ça m'est resté. Igor, mais tu vas te marier? Mais tu vas avoir la corde au cou. Et j'étais là, mais la corde au cou, je comprends. Je ne sais pas si c'était mon côté brésilien qui prenait le dessus. Là, j'étais la corde au cou, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Mec. Bon, avoir la corde au cou, avoir plus d'une corde à son arc, c'est dans mes cordes, donc c'est dans mes compétences. Être la corde raide, être dans une situation critique, jouer la corde sensible, chercher... Ouais, bref, il y a plein de choses. Ok, mais au-delà des expressions et du langage, une corde, elle est là comme un outil aussi. Une corde est là pour qu'on l'utilise. Une corde, j'ai mis quelques exemples de choses qu'on peut utiliser. On peut utiliser la corde pour grimper. Ceux qui font de l'escalade ou d'autres choses peuvent utiliser la corde pour grimper. On peut monter à cheval en utilisant la corde comme... Non, on ne peut pas? Si, on fait souvent ça au Brésil. On peut utiliser la corde pour monter à cheval. En tout cas, moi, je pense qu'on peut. On peut tirer des choses. Si, par exemple... Je ne suis pas du bon côté, je crois. Là. Si, par exemple... Allez, Mérona, attrape. Ça n'a pas marché. Allez, Mérona. On peut tirer des choses ou des personnes. Je ne veux pas dire une chose. Merci, Mérona. C'est que ça. Non, on peut tirer des choses, on peut attacher, on peut... Ok, est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est le battle rope? C'est que les sportifs. Ouais, c'est les trucs, la sport, où les gens tapent comme ça et qu'ils font pour brûler des calories. Il semblerait que c'est un des meilleurs cardio qui existe. Petit tips là. Non. Les cordes peuvent être utilisées comme beaucoup de choses. D'ailleurs, on a même un exemple biblique de quelqu'un qui a utilisé la corde, qui est Judas. Qu'est-ce que Judas a fait avec sa corde? Il s'est pendu. Est-ce que Judas s'est pendu parce que la corde était mauvaise? Ou elle était bonne, ou j'en sais rien, non? La corde est un outil. J'espère que vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire ce soir. Non. La corde est un outil. La corde peut être utilisée pour des bonnes ou pour des mauvaises choses. La corde, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées. Mais ce soir, j'aimerais utiliser l'exemple de la corde. Vous avez peut-être trouvé perché, mais c'est quelque chose que souvent, j'ai du mal et je pense abandonner. Je me rappelle de ce mot « corde ». La corde, ouais, vous pouvez rigoler tant que vous voulez, je sais. C'est difficile de transmettre quelque chose comme ça. Ok, corde, qu'est-ce que corde veut dire? Conscience, opportunité, responsabilité, discipline, excellence et sagesse. Ce que je veux dire par là, Dieu, quand je dis que Dieu veut vous donner des cordes, maintenant je vais arrêter de faire le guignol et je vais aller droit au but et vous traduire ça. Quand Dieu dit qu'il veut vous donner des cordes, c'est que Dieu veut vous donner des clés, Dieu veut vous donner des outils. Vous avez commencé une marche avec Dieu, vous êtes dans le chemin, vous, dans votre relation avec lui, vous allez atteindre un but, mais pour ça, j'ai la conviction que vous avez besoin de cet acronyme, de ce moyen mémotechnique qui est la corde. Corde, conscience. Conscience de quoi? Conscience que vous, de qui vous êtes et conscience des opportunités que Dieu vous donne. Ce soir, Dieu vous a donné une opportunité à certains de commencer une marche avec lui. C'est parce que vous avez eu conscience de cela que vous l'avez accepté ou refusé. Ok? Opportunité. Dieu donc, vous a donné une opportunité, vous avez eu conscience, par la conscience, vous avez eu cette opportunité. Et cette opportunité, bah, peut-être plusieurs choses dans la vie. Comme j'ai dit, Dieu ouvre des portes. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient des portes que Dieu ouvre? Est-ce que vous êtes conscient de l'opportunité qu'il vous donne? Même parfois, les temps, et même souvent, les temps difficiles, les épreuves qu'on passe, les moments de désert, les tempêtes, sont des opportunités. Ah, Igor, mais... c'est des temps difficiles, on doit se battre. Oui, mais concrètement, ce n'est pas quand tu es dans le confort que tu grandis, c'est dans le désert que tu grandis. C'est dans le désert que tu peux voir la puissance de Dieu. C'est dans le désert que Dieu peut venir et peut accomplir un miracle dans ta vie. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, je ne me rappelle plus l'auteur, qui disait que la meilleure terre pour planter un miracle, c'est l'impossibilité. Aujourd'hui, j'espère qu'en sortant d'ici, tu sois clairement conscient que devant toi, il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent. Si tu as conscience que cette opportunité a été permise par Dieu, tu vas voir ça en gain et tu vas pouvoir exercer ta foi, tu vas pouvoir ça comme un challenge et tu vas pouvoir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Ok. Les responsabilités. Une fois que tu as une opportunité, il faut que tu prennes cette responsabilité. Il faut que tu prennes ça comme une responsabilité. Je m'explique. Je crois que Dieu nous donne l'autorité à mesure de la responsabilité qu'on est capable de prendre. Aujourd'hui, si j'ai une responsabilité au sein de mon foyer, si j'ai pris cette responsabilité en tant que mari avec ma femme, c'est parce que, au mieux, si aujourd'hui j'ai une autorité dans mon foyer avec ma femme, si j'ai une autorité pour pouvoir être celui que Dieu a prévu, pour pouvoir être un bon mari et tout ça, c'est parce que j'ai choisi de prendre une responsabilité. Si aujourd'hui, il y a un manager qui a de l'autorité sur ses employés, qui peut les guider, qui peut faire plusieurs choses, c'est parce qu'il a choisi de prendre une responsabilité. Si aujourd'hui, tu as une autorité pour parler de quelque chose, c'est parce que tu as la responsabilité d'apprendre, de te renseigner sur ces choses, même avant de parler, si tu veux vraiment que tes propos aient de l'autorité. Dieu veut qu'on puisse être une génération pas de fast-food, mais une génération qui prend des responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une génération qui ne va pas simplement arriver, utiliser Dieu comme une baguette magique, demander quelque chose, Seigneur, guéris ici, fais ça, ouvre ça, machin, mais des gens qui vont prendre leur cheminement comme une responsabilité. Seigneur, je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas né simplement parce que tu n'avais rien d'autre à faire et tu m'as conçu. Je suis créé pour un but. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et maintenant, aujourd'hui, tu me demandes de prendre responsabilité et d'être patient et d'essayer d'exercer cet esprit de patience et d'avancer et de faire ma part des choses. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Dieu, lui, il est toujours fidèle. Il fait les choses qu'il dit. Mais Dieu est fidèle pour faire sa part quand nous faisons la nôtre. Dieu pourrait tout faire. Mais il choisit, à travers le libre arbitre, entre autres, il choisit de te dire, fais ta part et je serai fidèle pour accomplir la mienne. Faire ta part, c'est peut-être 1%, c'est peut-être crier à Dieu, c'est peut-être prier, c'est peut-être t'avancer vers quelqu'un que tu ne sais pas quoi lui dire. Et à ce moment-là, Dieu agit, Dieu met les paroles dans ta bouche, Dieu travaille en toi. Amen. Ok, parce que le temps passe, il faut vraiment que je clôture. On a la conscience des opportunités, on prend cette responsabilité. Dieu nous donne une autorité, mais pour pouvoir la maintenir sur la durée et pas être cette génération de fast-food, on a besoin d'être discipliné. Dans la progression avec Dieu, donc discipliné dans notre marche, discipliné dans nos disciplines spirituelles. Je parlais tout à l'heure de la personne qui court les marathons. J'étais me renseigner, une personne qui va courir un marathon, bien sûr, elle va se préparer tout long pour pouvoir atteindre son but. Elle va faire de la musculation pour renforcer son corps. Elle va faire des stretches et des échauffements pour éviter les blessures. Elle va faire du sprint pour construire de la vitesse, de la course en longue distance pour avoir de l'endurance. Elle va s'entraîner même à maîtriser la maîtrise de soi. Pourquoi ? Parce que si tu cours comme une fusée tout de suite dans le marathon, au bout de 10 km, tu es crevé. Tu as besoin d'apprendre à gérer tes réserves et tout ça. Et en pensant à ça, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que beaucoup de gens comprennent que pour atteindre ce but, ils ont besoin d'une discipline, ils ont besoin d'une rigueur, ils ont besoin de se mettre, mais nous, souvent, on ne se rend pas compte que dans le marathon de la vie chrétienne, parce que ce n'est pas une course de sprint, c'est pas « j'ai couru, je suis arrivé », non, c'est sur la longue durée, on a besoin aussi des disciplines spirituelles. Et j'en ai énuméré quelques-unes. On a besoin de prendre du temps pour écouter Dieu. Si vous êtes comme moi et que vous parlez beaucoup, vous avez besoin d'apprendre à vous maîtriser, dire « Seigneur, je me la ferme et je t'écoute maintenant ». C'est important d'écouter Dieu. Dieu elle-même, il n'a pas changé, il parlait hier, il parle aujourd'hui, il parlera demain. Okay, et peu importe ce qu'on dira, c'est la vérité. Aujourd'hui, on a besoin de prendre du temps pour écouter. On a besoin de prendre du temps pour lire notre Bible, pour méditer notre Bible et pour étudier la Bible. Ce n'est pas la même chose. Si tu prends un texte pour le lire, même à l'école, si tu prends un temps pour l'étudier, tu ne vas pas sortir les mêmes choses. Ce n'est pas différent pour la Bible. On a besoin de prendre du temps avec la parole de Dieu. La parole dit que... Donc la Bible dit que... Ah, j'ai un blanc. Désolé, c'est vendredi. Elle dit que la... Ok, est-ce que vous écoutez... Oh, voilà. Exact. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Naomi. On a besoin de pouvoir... D'ailleurs, ça c'est le prochain point, la mémorisation. De prendre du temps pour mémoriser, pour jeûner, pour prier. On a besoin du temps pour soi. On a besoin de repos. C'est des disciplines spirituelles. Le repos est une discipline spirituelle. C'est quelque chose que Dieu dit clairement qu'on doit prendre. Encore une fois, j'ai l'impression que je fais tout faux, que les gens très activistes comme moi ont du mal à prendre. On a besoin, parce que quand on est reposé, on voit les choses d'une manière différente. On a une perspective différente. Et cette perspective va nous emmener à avancer avec Dieu. On a besoin aussi de discipliner notre corps, parce qu'on est dans une lutte, on est dans un combat. Si ces athlètes se disciplinent leur corps pour pouvoir une maîtrise de soi, pour pouvoir tenir la course, pourquoi nous est-ce qu'on ne maîtrise pas notre corps? On n'a pas cette maîtrise de soi pour résister quand la tentation vient. Ou pour faire comme Joseph, quand la tentation vient, courir à l'opposé. Quand la femme de Potiphar était venue, il n'a pas dit « Ah, je suis trop fort, je vais rester là, je vais penser ». Moi, je ne suis pas là pour faire le faux, je suis là pour vous parler de ma vie. Concrètement, au début de ma vie chrétienne, moi, je croyais que si, quand j'étais tenté d'aller dans un site pornographique et que j'étais là, je croyais que si je priais, si je mettais de la louange pendant que je naviguais sur Internet à côté, j'allais être assez fort pour résister et ne pas tomber. Je peux vous dire que ça a mal fini. Fuyez. C'est important de savoir choisir ses combats. OK ? Donc, on a la conscience de l'opportunité, on prend responsabilité, et dans cette responsabilité, on exerce notre discipline. Deux derniers points, excellence et sagesse. Excellence, c'est donner le meilleur dans tout ce qu'on fait. Moi, je crois que la passion et l'excellence sont les meilleurs carburants pour qu'on puisse vraiment faire les choses avec succès, pour être la tête et non la queue, comme Dieu nous appelle à être. Et la sagesse, c'est comment est-ce que tu discernes les temps, comment est-ce que tu vas gérer les opportunités que Dieu te donne aussi. Dieu est venu sur terre, il a vécu une vie qu'on ne pouvait pas vivre, il est mort à la croix, il nous a donné la vie éternelle, il nous a choisis, il nous a donné une direction, il nous accompagne tous les jours, il nous enseigne, il nous donne des outils et il nous appelle à vivre cette vie abondante, une vie motivée par l'essentiel. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas ici sur terre pour survivre. Je vois beaucoup de gens survivre autour de moi. Je vois beaucoup de gens survivre, vivre une vie médiocre. Et quand je dis ça, encore une fois, je ne parle pas d'une vie qui est un long fleuve tranquille ou une vie qui n'a pas de problème. Non, une vie qui a du sens. Des gens qui vivent réellement, des gens qui ont un amour pour la vie. Un amour pour la vie. Et moi, je crois que ça, ça peut venir que par ce choix et par cette marche avec Christ. On va clôturer là. Ce soir est une soirée de décision. Ce soir est une soirée, comme j'ai dit, que si tu pars d'ici en disant « Seigneur, moi je suis fidèle, je veux faire ma part et je veux me saisir des opportunités que j'ai conscience, je veux vraiment vivre une vie qui te glorifie, je veux prendre cette décision et que tu tiens sur la durée, Dieu est fidèle pour faire sa part, Dieu est fidèle pour te ressusciter les domaines de ta vie, pour t'emmener à la plénitude, pour te faire vivre une vie qui vaut la peine, une vie qui a du sens. » Mais tout ça dépend de toi. Et je vais prier et clôturer ici avec la simple question. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Personne, et ça c'est un pouvoir du libre arbitre, c'est un pouvoir immense que Dieu a donné entre tes mains. Il t'a donné le libre arbitre de choisir. Tu ne pourras jamais te retourner en arrière et te plaindre envers Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est comme ça? Je croyais que... Non. Dieu est fidèle. Si souvent nous ne voyons pas sa fidélité, c'est parce qu'on fond, est-ce qu'on a réellement pris ce choix? OK? On va prier? Amen. Est-ce que peut-être quelqu'un pourrait venir au piano? Ouais. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble, Seigneur, autour de ta parole. Merci de nous enseigner à chacun d'entre nous. Je te prie maintenant que tu puisses vraiment produire le vouloir et le faire dans le cœur de chacun ici, moi inclus, Seigneur. Ce n'est pas une vie facile. On a l'impression que le monde va de pire en pire. Mais je crois du fond du cœur que tu ne nous as pas appelés pour survivre ou pour avoir une vie médiocre, mais tu nous as appelés, Seigneur Jésus, pour avoir une vie et une vie en abondance. Une vie en abondance. Je prie ce soir que tu viennes te vraiment faire donner cette conscience, donner cette perspective, Seigneur, de la vie en abondance à chaque personne ici présente, Seigneur. Merci parce que tu désires, Seigneur Jésus, que nos vies soient transformées, Mais tu nous aimes tellement que tu ne nous obliges pas, parce que sinon, ça ne serait pas de l'amour. L'amour n'oblige rien. Par ton amour, ce soir, tu lances dehors toute crainte, toute peur, et tu nous aides, Seigneur, dans nos cheminements, et tu viens, Seigneur, tu viens écrire, Seigneur, au fer rouge, tu viens écrire dans les parois de nos cœurs aujourd'hui ce choix que nous prenons, Seigneur. Les cieux et la terre aujourd'hui sont témoins, Seigneur Jésus, que tu nous appelles, Seigneur, à prendre des choix, à vivre un évangile qui n'est pas un évangile émotionnel, mais qu'un évangile qui est réel. Un évangile dans lequel nous choisissons de t'ouvrir nos cœurs, de t'ouvrir nos vies et de marcher avec toi. Rien ne peut arrêter ton œuvre dans notre vie, Seigneur Jésus. Merci de venir vraiment emmener cet esprit, cette dynamite, ce dynamisme par Saint-Esprit, venir produire ces choses dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. L'objectif n'est pas de faire long pour faire long. L'objectif n'est pas, Seigneur, qu'on se brouille le cerveau simplement d'informations, mais l'objectif, c'est que tu mettes l'essentiel dans notre cœur et que notre vie soit motivée par cela et que notre vie porte du fruit dans notre travail, dans notre famille, dans l'université, à l'école, dans la musique, dans le sport, là où tu nous appelles, Seigneur Jésus. Tu ne nous appelles pas pour être tiède, tu ne nous appelles pas pour être froid, tu nous appelles pour être bouillon, tu nous appelles pour être la tête, tu nous appelles pour vivre une dépendance à toi, Seigneur Jésus. Et aide-nous à faire notre part pour que tu puisses être fidèle pour faire la tienne. Amen. Amen.